Bonjour et bienvenue dans À vos micros pour réinventer le monde, l'émission spéciale enregistrée depuis l'Agence française de développement qui accueille aujourd'hui plus de 200 collégiens et lycéens. Quel regard ces jeunes portent-ils sur le monde ? Comment les sensibiliser au développement durable et à la solidarité internationale, eux, qui seront demain les acteurs aux commandes ? C'est l'enjeu que je vous propose de questionner ce matin. Je suis Mathilde Schneider, directrice de la communication de l'AFD et j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonjour Monsieur le ministre.
Bonjour.
Et Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathilde.
Également sur notre plateau ce matin, Marianne, Anis, Sadio, Kélia, Clarence, Sarah, Aubin et Lucie, les lauréats du concours de podcast Réinventer le monde, un programme pédagogique conçu à l'AFD pour sensibiliser les jeunes au développement durable et à la solidarité internationale. Bonjour à tous, on se retrouve dans un instant pour écouter vos œuvres. Mais j'aimerais commencer avec vous, Rémi Rioux, pour une petite mise en contexte. Le programme Réinventer le monde propose aux élèves d'imaginer des histoires en se basant sur les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Qu'est-ce que c'est exactement et comment l'AFD y contribue ?
Alors, en septembre 2015, tous les pays du monde se sont mis d'accord sur des objectifs qu'on doit tous atteindre en Colombie, en France, au Burkina Faso, en Indonésie, en 2030. Donc, il y en a 17, donc l'ODD 4, dont le ministre d'ailleurs est le champion. Pour l'UNESCO, ça, c'est l'éducation, évidemment. Il y a le climat, il y a la protection de la nature, il y a le travail décent, enfin, tout un agenda très complet pour améliorer la vie des populations partout dans le monde.
Et l'AFD, y contribue comment ?
Alors nous, on travaille dans 115 pays aujourd'hui et on apporte au nom de la France des financements, bien sûr, et puis aussi de l'assistance technique, de l'expertise, du lien en fait, du lien social avec tous ceux dans notre pays et vous les premiers, bien sûr, qui souhaitent coopérer parce qu'on vit dans un monde en commun et les solutions, on les trouvera qu'ensemble.
Alors, vous l'avez dit, il y a 17 ODD. J'aimerais qu'on s'intéresse à l'ODD numéro 12, qui porte sur la consommation et la production responsable. C'est le sujet de l'étiquette qui gratte, le premier podcast de nos lauréats que je voudrais vous faire écouter ce matin et qui se déroule entre la France et le Bangladesh. On écoute un extrait.
Salut Baptiste, ça va ? T'en fais une tête ?
Ouais, c'est bof. Je me suis pris 2 heures de colle en sport hier.
Arrête ! Toi, qu'est-ce que t'as fait ?
Non mais Baptiste, c'est quoi cette histoire de colle ? T'aurais pas pu nous le dire hier ? Mais c'est grave ?
Je vous préviens, vous allez trouver ça ridicule.
Raconte !
J'ai l'étiquette de mon short Adidas qui me gratte. Je peux plus le mettre et j'ai oublié d'en prendre un autre. Donc j'ai pas voulu faire sport. Bah le prof, il a pas trop apprécié.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as qu'à la couper cette étiquette. C'est pas compliqué, ça vaut pas 2 heures de colle. Ça.
Bah venez, on va au foyer, vous allez voir. C'est pas si simple, hein.
Alors, il est où ce short ?
Tiens, vas-y, coupe.
Aïe, aïe ! Stop, tu me fais mal.
Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Qui parle ?
Bah, c'est moi l'étiquette, là. Je suis juste là, sous vos yeux. Bah, juste sous vos ciseaux. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne me coupez pas.
Non mais c'est pas possible, je deviens folle, vous avez entendu ça les gars ?
Je vous avais prévenu.
Mais tu parles, mais c'est magique ?
Ah non, c'est pas magique, c'est tragique.
Bon, ça suffit maintenant, on t'écoute, dis-nous. Qu'est-ce qui est si tragique ? Raconte-nous l'étiquette.
Je viens de Dhaka, capitale du Bangladesh, où 80% de vos vêtements sont fabriqués dans des usines où les conditions de travail sont inhumaines. La cadence des machines ne s'arrête jamais. Adultes, enfants, travaillent sans répit pour un salaire de misère. J'ai promis à Malia, la petite créatrice, de l'aider du mieux que je pouvais. S'il vous plaît, aidez Malia.
Non mais c'est fou ça. Qu'est-ce qu'on peut faire nous ?
Faut d'abord vérifier toutes ces infos.
Et chercher si une histoire pareille s'est déjà produite. Une étiquette qui parle. Personne ne nous croira.
Bonjour Clarence, Sarah, Aubin, Lucie. Vous êtes du lycée agricole de Davayé. Vous avez pris le train très tôt ce matin pour être ici aujourd'hui. Merci. Alors, à travers cette histoire d'une étiquette qui gratte là, et qui dérange, qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
L'idée principale, c'était principalement de sensibiliser notre entourage pour leur montrer qu'on peut consommer moins de vêtements et mieux, c'est-à-dire de manière plus responsable. On voulait aussi montrer aux gens et au monde les conditions de travail parfois aberrantes des gens dans certains pays.
Donc, alors notre podcast, il raconte l'histoire d'une étiquette qui gratte, qui dérange
et des lycéens qui vont donc découvrir, grâce à leurs recherches, les impacts environnementaux et sociétaux de la production et consommation de vêtements. Ils mettront alors en place des actions de sensibilisation sur leur établissement pour éviter donc la surconsommation.
Mais aussi, notre podcast, il porte sur plusieurs ODD, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont tous liés entre eux. Mais principalement, on peut dire qu'il y en a deux. Donc, il y a l'ODD numéro 1, qui est « Pas de pauvreté ». Et bien sûr, celui qui est le plus mis en avant dans notre podcast, c'est le numéro 8, qui est « Travail décent et croissance économique ».
Merci beaucoup. On part maintenant au Sénégal. Tous les Sénégalais connaissent Mbeubeus, la ville des charges qui s'étend sur 170 hectares et où viennent se déverser plus de 5000 tonnes de déchets par jour. Conscients du problème environnemental au cœur de Dakar, les élèves du collège Mozart, dans le 19e arrondissement à Paris, ont des idées et des solutions assez créatives pour transformer tout ça. On écoute un extrait tout de suite ?
Aujourd'hui 5 mai 2024, nous accueillons Aminata So, la célèbre artiste du site Mbeubeus. Retour sur son parcours et précieux témoignage dans cette magnifique aventure de transformation. Aminata So, bonjour.
Bonjour Frida, merci de me recevoir.
Vous êtes l'artiste la plus en vue du Sénégal depuis peu. Votre travail a une répercussion internationale. Je devrais dire d'ailleurs éco-artiste.
Oui, éco-artiste me plaît beaucoup. Aussi parce que mon succès est en grande partie lié à cette prise de conscience collective de l'écologie heureuse qui a permis de transformer la décharge de Mbeubeus en un éco-lieu modèle en 3 ans.
En effet, le rayonnement de cette opération a été formidable. À quoi accordez-vous ce succès ?
Au désir de changement immense qu'avait la population d'une vie avec du sens. Cette accumulation de déchets était une insulte à l'humain, à la terre et à l'intelligence.
Et à l'aide des institutions également, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, l'apport financier a été fondamental. Mais ce n'était pas la première fois que des sommes étaient débloquées pour trouver une solution. L'argent nous a permis d'agir avec rapidité. Le groupement d'associations des quartiers a coordonné tout le plan de réhabilitation du site.
Qu'est-ce qui a été fait en premier ?
La transformation du plastique. L'achat de systèmes et de machines pour transformer les déchets plastiques d'une part en briques de construction, en dalles de sol et en piliers de signalétique routière, et d'autre part en carburant. Le carburant a alimenté tous les véhicules du site. Et parallèlement, on a construit un premier hangar pour placer un incinérateur avec récupération de chaleur et transformation en courant électrique. Une fois les sols assez dégagés, des puits ont été creusés pour que le site soit autonome en eau. Des emplois ont été aussi créés. La vie des quartiers a changé car, quand un salaire arrive dans une famille, l'avenir s'ouvre différemment.
Bonjour Marianne, Anis, Sadio, Kélia. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Qu'est-ce qui était important pour vous ? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette histoire qui se passe loin, en fait, mais qui nous concerne pourtant de très près ?
On a voulu raconter qu'il n'y a pas que les... Enfin, que les jeunes aussi peuvent être investis dans le futur. Enfin, vu que ça, il sera à nous le futur, bah, on est un peu obligés. Et on a fait des votes pour choisir le pays, déjà. Après on a créé nos personnages, ouais. Et après, vu qu'on a choisi le Sénégal, on a fait des recherches et on a vu Mbeubeus et on a choisi ça. Et c'est des jeunes militants qui de différents pays et qui se retrouvent au Sénégal et voilà.
Et qui trouvent des solutions pour. Oui. Transformer Mbeubeus et en faire finalement un laboratoire de solutions.
Oui, voilà.
Et ben c'est super. Est-ce que l'un d'entre vous veut dire un petit mot ? Anis ?
Notre podcast, il est sur 13 ODD sur 17,
wow.
dont les trois plus importants, le numéro 1 qui est pas de pauvreté, le numéro 3 qui est la bonne santé et le bien-être, et le 11 qui est ville et communauté durable. Dans ce podcast, nous avons aussi réussi à mobiliser les compétences suivantes. La solidarité, nous avons aussi appris à faire des choix avec le collectif et à des fois enlever des rôles ou abandonner des idées pour le collectif.
Super. On reviendra à la manière dont vous avez, ce que vous avez appris en faisant ce podcast. Mais je voudrais me tourner vers vous, monsieur le ministre. Qu'est-ce que tout ça vous inspire et comment l'éducation nationale s'empare-t-elle de ces fameux objectifs de développement durable ?
D'abord, je voudrais féliciter les élèves, hein, puisque ils ont réussi quelque chose à la fois de passionnant et de difficile, en faisant des podcasts réussis, et puis en reliant ça à des enjeux de fond qui sont essentiels. Parce qu'au travers des objectifs de développement durable, on a en fait la construction d'un avenir bon pour l'humanité. Donc c'est évidemment les sujets les plus importants qui soient, comme ils l'ont très bien dit. Et je trouve que c'est important d'avoir la vision complète des objectifs de développement durable, et c'est d'ailleurs pour ça que l'ONU a fait ce travail, parce que parfois on a tendance à compartimenter les sujets, à les penser séparément. Alors que réfléchir à tous les objectifs de développement durable, c'est réfléchir de façon systémique à toutes les interactions et au fait que, en s'attachant à chacun des facteurs, on peut améliorer tous les facteurs. Et concrètement, ça veut dire que, par exemple, pour l'objectif de développement durable qui, moi, me concerne le plus, comme l'a dit Rémi Rioux, c'est-à-dire l'objectif 4, c'est-à-dire l'accès à l'éducation pour tous les enfants du monde, qui pour moi est un objectif fondamental, eh bien, on voit bien que le réussir cet objectif-là dans les temps à venir, c'est aussi contribuer à la réalisation de tous les autres objectifs, parce qu'on aura évidemment plus de respect de l'environnement, plus de villes durables, etc., moins de pauvreté, si on réussit l'accomplissement de l'ODD 4. Mais on pourrait dire la même chose de chacun des ODD. Chacun influence sur les autres. Si la ville, par exemple, est mieux organisée, ça favorise aussi le droit à l'éducation de tous. Donc pour moi, c'est très important. Puis chacun a une très forte actualité, a fortiori avec la crise sanitaire. Par exemple, s'agissant de l'ODD 4 sur le droit à l'éducation, je suis beaucoup mobilisé, pas seulement à l'échelle de la France, à une échelle aussi européenne et internationale, sur l'ouverture des écoles. Il faut bien voir que la crise sanitaire est potentiellement une catastrophe pour les enfants du monde. Il y a des dizaines de millions d'enfants qui ont été déscolarisés. Il y a plus d'un milliard d'enfants qui ont été concernés par des confinements. Et il y a certains enfants qui ont dû ne plus aller à l'école et qui ne retournent pas à des endroits où c'était fragile. Et par exemple, s'agissant des petites filles, on sait que c'est encore plus fragile que pour les petits garçons le fait qu'elles soient scolarisées de façon égalitaire partout dans le monde. On estime à 11 millions de filles le nombre de filles qui peut-être ne retourneront plus à l'école parce qu'elles en sont sorties à l'occasion des confinements. Donc c'est grave, ça doit nous mobiliser. Et par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, j'ai commencé à prendre des initiatives dans ce sens, mais aussi à l'échelle de l'UNESCO. Il y a 10 jours, on était avec le président Macron, avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et des dizaines de ministres de l'éducation du monde entier pour faire une déclaration d'engagement de nous tous sur le droit à l'éducation de tous les enfants. Et donc la nécessité d'investir plus en éducation et la nécessité d'avoir les écoles ouvertes. Je me suis beaucoup battu pour que les écoles restent ouvertes malgré la crise. Et en France, on y est dans l'ensemble arrivé. Mais il faut que ça se passe à l'échelle du monde. Sinon, les autres objectifs, on ne les accomplira pas si on n'a pas le droit à l'éducation. Donc que les élèves prennent conscience de tout cela me paraît très important. Et pour terminer, je dirais que c'est important d'en prendre conscience de façon positive et constructive et active. Parce que là, par exemple, ce que je viens de dire, c'était un peu inquiétant, par exemple. Mais il ne faut jamais se laisser abattre par une quelconque fatalité. Il faut agir. Par exemple, le droit à l'éducation, on peut parfaitement agir pour qu'il s'accomplisse. Certains d'entre vous allez devenir peut-être professeur, directeur d'école, responsable d'ONG. Ministre. C'est possible. C'est une question de travail. Et vous allez peut-être être dans des ONG qui s'occupent de droit à l'éducation ailleurs dans le monde, etc. Donc vous allez être acteur d'accomplissement d'objectifs de développement durable. Et surtout, par rapport à chaque point, on peut toujours voir les risques, les craintes, les périls. Par exemple, vous, ce que vous avez vu sur cette décharge au Sénégal. Mais à chaque fois qu'on voit le péril, il faut aussi réfléchir à la solution. Et par exemple, vous avez bien montré qu'une décharge pouvait se transformer en un lieu écologique. Donc il faut raisonner en termes de solutions, parce que ça ne sert à rien de juste déplorer des problèmes. Il faut raisonner en termes de solutions. Et donc pour moi, c'est important que les élèves soient acteurs des solutions.
Merci beaucoup. Alors, peut-être je reviens vers vous, collégiens, lycéens. C'était la première fois que vous faisiez des podcasts, je crois. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce projet ? Anis, tu disais tout à l'heure, on a dû apprendre à discuter, on avait des idées, des personnages, finalement, on ne les a pas gardés. Qu'est-ce qui a été le plus dur et qu'est-ce qui vous a plu ?
Pendant ce podcast, nous avons appris les différents procédés d'écriture et découvert l'univers de la technique radio, puisqu'on ne connaissait rien du tout dessus. Nous avons aussi appris qu'on pouvait aboutir un projet jusqu'au bout et même gagner, malgré le contexte sanitaire et les changements de planning, puisque c'était une semaine sur deux, etc. C'était un peu le bazar. Et plus généralement, ce travail nous a amené à une prise de conscience collective sur les enjeux écologiques.
Super. Côté Davaillé, qu'est-ce que vous aviez retenu ?
Alors, personnellement, j'ai été choqué par l'utilisation en grand nombre de produits chimiques pour la production de coton et du niveau de protection des agriculteurs. Ils n'ont clairement pas de protection. Et l'accès, malheureusement, aux soins, il est quasi inexistant. Donc, ça m'a vraiment marqué. Et, ainsi que le déséquilibre entre les marges que se font les multinationales et les salaires des ouvriers sur un vêtement créé. Voilà.
De même, alors, moi, j'ai été choquée par la quantité d'eau utilisée pour fabriquer un textile qui est de 3700 litres pour juste fabriquer un t-shirt. Et franchement, pour l'impact écologique, bah, c'est pas fou, quoi.
Du coup, vous allez changer vos manières d'acheter ?
Alors, personnellement, oui. Moi, depuis que j'ai appris ça, même avant, j'essaie d'acheter de seconde main. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Mais oui, j'essaie d'y remédier pour penser à la planète et aux autres, quoi.
Donc, vous agissez directement ?
Oui.
Moi, j'ai apprécié surtout un truc, c'est qu'on a fait un travail de recherche et du coup, les échanges avec les bénévoles. Je trouve ça très intéressant parce qu'on était dans l'action, quoi. On savait ce qu'ils faisaient. On a même pu visiter une ressourcerie, donc c'est là où vont nos vêtements. Où ils sont triés et redonnés.
Et on a aussi mobilisé beaucoup de compétences pour réaliser ce podcast, comme par exemple savoir réaliser un montage son ou faire des recherches internet, notamment pour rechercher les bandes son qui permettraient d'animer le podcast. Écrire aussi une fiction à partir de vrais chiffres qu'on a découverts sur internet, avec des bénévoles, etc. Jouer aussi la comédie et prêter nos voix à des personnages pour rendre le tout vivant. Et chercher aussi des actions à mener à l'intérieur même de notre établissement pour consommer mieux et différemment.
Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Peut-être une dernière question pour vous, Monsieur le Ministre, avant de conclure cette émission. Est-ce que le podcast a de l'avenir à l'école ?
Oui, un très grand avenir du podcast à l'école, puisque ce que l'on veut, c'est encourager des web radios partout. Les élèves viennent très bien de le dire, en disant qu'au travers d'une web radio, on peut... faire toute une série d'exercices qui sont très profitables. L'exercice d'écriture, l'exercice d'expression orale, l'exercice de coopération et donc le travail d'équipe, et puis l'exercice de recherche. Ça a été très bien dit à l'instant par les élèves. Donc sur tous ces points, c'est très pédagogique, c'est très pertinent. Et donc les web radios en plus permettent à un collège ou un établissement de communiquer avec son environnement, ce qui est positif aussi. Et que ce soit sous la forme de web radio ou de podcast, quelles que soient les formes que tout cela prend, c'est très important d'être dans ce type de projet où les élèves travaillent entre eux pour mettre en forme de façon réussie des sujets de fond qui les amènent à la fois à travailler ensemble et à faire des recherches approfondies. Donc vraiment, ça a toutes les vertus et nous les encourageons beaucoup. Et récemment, j'ai poussé même à la systématisation du développement des web radios dans les établissements.
Rémi Rioux, le mot de la fin.
Non, bravo, félicitations à Davaillé et à Paris. Là. Les podcasts, c'est formidable parce que c'est des voix d'abord, donc c'est des histoires humaines. Et puis, le ministre l'a dit, c'est des histoires concrètes en fait. C'est-à-dire, on voit qu'on a une capacité d'action. Et donc vraiment, vous pouvez le faire, on peut le faire, on peut le faire ensemble. Et ici, à l'AFD, bien sûr, on est à votre écoute. Et pour appuyer les initiatives que vous allez, dans les années qui viennent, tous individuellement et collectivement mettre en place. Donc bravo et félicitations pour ces prix.
Eh bien voilà, cette émission s'achève. Merci à tous nos invités d'être venus ce matin. Si vous aussi, vous avez envie de faire des podcasts pour raconter le monde tel qu'il devrait être, rendez-vous sur le site réinventer-le-monde.fr. À bientôt. Thank you.